Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Avec ses airs d'éternel gamin facétieux, ses yeux brillants et son grand sourire bonhomme, il est entré de son vivant au panthéon des grands chanteurs populaires français. Étonnant parcours que celui de cet homme dont le nom s'inscrit au fronton des écoles dans lesquelles on étudie certains de ses textes, alors qu'il manie l'argot, l'érotisme et la gauloiserie comme personne. Bon vivant, il l'est assurément, mais cet artiste des mots sait aussi partager ses colères et ses engagements, tantôt avec humour, tantôt avec émotion et parfois les deux en même temps. Que de chemin parcouru donc depuis que son père l'a inscrit au conservatoire juste après le certificat d'études. C'est là qu'il a appris le solfège et le saxophone. Il est aujourd'hui l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus prolifiques que la France ait porté. Il publie aux éditions Adèle un ouvrage intitulé Aphorism and Blues et se prépare à entamer Celle Playel, une tournée française ironiquement baptisée Mes adieux provisoires. Pierre Perret est avec nous. Et vous m'en direz des nouvelles.
Comment aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer une burnousse, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macchabées. Les cherchez pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés quand redoutait d'être in fine déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils empoulés. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y avait le raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphorus. D'après lui, y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette. Y avait qui pense qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés.
Bonjour Pierre Perret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Les confinis, et chacun l'aura compris si jamais ça leur avait échappé, c'est la chanson que vous avez écrite pendant le confinement. Énorme succès
pour me
sur
fâcher.
YouTube. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. En fait, vous étiez mari, vous étiez en colère d'être confiné?
En colère surtout devant une situation aussi ubuesque, avec toutes les contradictions qu'on entendait au fil des jours, parce que on entendait rouge un jour, bleu le lendemain, vert le surlendemain, et ça devenait un peu agaçant à la fin, surtout dans la mesure où était imposé ce masque si horrible à supporter pour tout le monde au quotidien. Et moi, j'étais relativement béni des dieux, puisque j'habite à la campagne dans une grande maison, mais j'ai pensé à tous ces pauvres gens qui vivent dans 10, 15, 20, 30 mètres carrés avec peut-être 2 enfants, 3 enfants parfois. C'est insupportable et c'est horrible.
Tout le monde en prend pour son grade dans la chanson, hein, les médecins à la télévision, Raoult et les autres, les politiques hein, comme Cybette Ndiaye, à l'époque porte-parole du gouvernement, Donald Trump aussi. Est-ce que tout le monde s'est trompé finalement depuis le début de cette crise sanitaire, Pierre Perret?
Ah ben ceux-là, tout au moins que vous venez de citer,
ça fait
moi,
du monde.
Ils sont lourdement trompés, oui, ça c'est sûr.
C'est un édito en fait, cette chanson, c'est presque un... Oui, c'est un travail d'éditorialiste, c'est un travail de journaliste
que vous avez fait. Sur le plan historique, comme je dis, aucune fausseté. J'ai pas dit que j'ai pas dit de bêtises. Eh bien, ça peut être un témoignage, effectivement.
Et vous l'avez sorti sur YouTube, hein, je le disais, donc oui. Un petit peu comme si vous étiez un petit jeune comme ça qui se lance sur le net.
Mais je suis un petit jeune. Je ne me lance plus parce qu'il y a longtemps que c'est fait.
Ça vous a surpris, justement, cet immense succès par YouTube?
Oui, c'est une idée de mon épouse qui a dit, quand je lui ai chanté, puisque c'est la première que je l'ai chanté, elle m'a dit, attends, je vais mettre ça sur les réseaux et tu vas voir tu vas en réjouir plus d'un. J'ai dit, arrête. Et c'est parti, et c'était 500, 1000, 2000, 3000, tous les jours, c'était incroyable. Et maintenant, c'est pratiquement à 3 millions d'écoutes, et ça continue quand même, parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein.
Oui, c'est vrai que bon, si Batendia n'est plus porte-parole du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a toujours des contradictions dans les médias encore aujourd'hui à propos du coronavirus.
Elle n'avait pas l'exclusivité des contradictions, c'est les suiveurs ont continué.
Vous avez beaucoup écrit, Pierre Perret, au-delà des confinis. Vous avez beaucoup écrit pendant le confinement. C'est une période prolifique pour vous, plus que d'habitude encore ?
Non, mais j'ai écrit parce que moi, je passe pas longtemps sans écrire. C'est très difficile pour moi. Même la nuit, ça me réveille. Et les idées qui me trottent dans le citron, il faut que je les couche parce que sinon, le lendemain matin, je m'en souviens plus.
Donc on vous imagine comme ça, sauter du lit, aller vers vos carnets, griffonner, quelque chose comme ça.
C'est exactement ce que vous faites. Je fais ma portée musicale très vite. Je mets mes notes très vite. Et
la musique et les mots viennent en même temps?
Et ça me vient en même temps. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs, oui. J'ai rêvé presque entièrement la cage aux oiseaux. Sol, do, mi, 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 do, mi, fa, mi, do, mi, sol, sol, sol. Vite, je suis parti noter, je me suis forcé à tomber du lit, même dans la nuit, pour être sûr que j'allais pas perdre ça, parce que je voulais le garder, ça me plaisait ce que j'entendais.
Donc, les nuits agitées de Pierre Perret.
Oui.
Une des matrices de l'écriture de l'artiste.
Prolifique, oui.
Alors, conséquence du confinement et de l'épidémie, non seulement vos nuits ont été parfois un petit peu prolifiques et agitées, mais votre tournée qui devait démarrer au mois d'avril a forcément été décalée. Vous êtes
ça,
pas tout seul.
Drôle,
dans ce,
oui, c'est
dans
moins
ce
drôle,
cas-là.
Puisqu'on a dû sursoir à déjà 20 ou 30 villes qui seront reportés dans un an ou un an et demi, on ne sait pas, c'est tellement hypothétique.
Oui, c'est difficile de faire des prévisions, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, hein, comme
on
disait
peut pas
je ne sais
trop,
plus qui.
Oui, bien sûr.
Coup d'envoi, donc les 10 et 11 octobre, salle Pleyel à Paris. Vous voyez chanter comme ça, sur scène, devant une salle, avec moins de gens, avec des fauteuils vides, ça ne vous arrive pas souvent, et en plus avec des gens masqués?
L'expérience m'est venue il y a 3 semaines à peu près, puisque j'ai chanté près de Nice, dans un théâtre de verdure. Il y avait à peu près 1500 personnes, quoi. Et une sur deux, puisque le théâtre faisait 2500, 3000 places. Et ben ma foi, ils sont pas restés un pas vide. Ils étaient au contraire très enthousiastes et ils l'ont montré.
Et donc sous les masques, on voyait les sourires.
J'étais content. Oh oui, oui. Et puis attendez, cette chanson que vous venez de programmer à l'instant, et ben même dans la salle, il l'a chantée. C'est la première fois de ma vie que je la chantais en public. Et j'étais époustouflé de voir que c'est eux qui chantaient déjà derrière les masques, c'est pas fastoche.
Alors on voit en tout cas, et on vous entend là, Pierre Perret, toujours enthousiaste. Vous avez gardé cet enthousiasme du premier jour finalement.
Ah mais c'est pour ça que je me suis amusé à intituler ce spectacle et la tournée qui suivra les adieux provisoires.
Sacré oxymore.
Parce que si ce que je fais ne me passionnait plus, je serais plus là, je partirais sur la pointe des pieds et j'emmerderais plus personne, excusez-moi, mais
Mais donc ça veut dire que vous pouvez pas vous mettre dans la tête qu'un jour vous arrêterez, quoi.
Oh, faudrait bien quand même, parce que un jour ou l'autre, faudra peut-être bien que je devienne raisonnable par force.
C'est une drogue la scène pour vous, Pierre Perret?
Non.
Vous pouvez pas vous en passer?
Non, pas du tout. Alors là, non. Je serais beaucoup plus privé d'écriture que de scène.
Mais est-ce qu'on peut écrire pour soi ou est-ce que vous vous sentez obligé en quelque sorte de partager, que ce soit à travers un album ou à travers un spectacle?
Oh, j'aime bien chanter une phrase inédite et voir que les gens éclatent de rire ou éclatent d'une émotion terrible, comme quand j'écris La femme grillagée ou Les femmes battues ou Lily ou Mon petit loup, etc. Je vais pas faire le panégyrique de tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais il y a des moments de grande émotion, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Et puis il y a quand même des gens qui éclatent de rire toutes les deux ou trois chansons. Les gens éclatent de rire parce que ils écoutent toutes les chansons humoristiques que j'ai pu écrire dans ma vie. Et oui. J'en ai écrites quelques-unes.
Et c'est vrai qu'il y a un sacré échange dans les concerts de Pierre Perret entre les artistes et singulièrement vous sur scène et le public. Que soit ce public, la salle chante vraiment presque autant que vous. Hein. Vous avez des fidèles qui connaissent vos chansons par cœur de A à Z. Parfois, vous avez presque du mal à en placer une, quoi, de temps
oui,
en temps.
Parfois, oui. Mais ça me repose.
Mais il n'en reste pas tant que ça, aujourd'hui, des chanteurs populaires français. C'est un beau mot, peut-être, le mot populaire pour vous, forcément, j'imagine.
Ça n'a jamais été un juron, pour moi, bien sûr.
C'est pas le cas pour tout le monde.
C'est un honneur.
Bon, mais un chanteur populaire comme ça, dont les chansons traversent les générations et les générations, il n'y en a pas tant que ça. Comment est-ce que vous expliquez que ça vous est arrivé à vous ?
Ah, j'en sais, alors là, ça c'est la grande inconnue. Et pourquoi vous plaisez à telle brune et pas à telle blonde ? Et pourquoi vous plaisez à tel monsieur et pas à l'autre ? On ne sait pas. Moi, ce que j'ai essayé de partager tout au long de ma vie, c'est mes émotions. Et le reflet de ce qu'était la vie pour moi. Alors, il s'est trouvé que la conjonction était sûrement possible avec d'autres, puisque ceux qui m'aiment partagent les idées que j'ai et que j'essaie de faire passer dans mes chansons. Mais c'est tout. Tout le monde pense pas comme moi, et je respecte les autres qui pensent pas comme moi. Mais heureusement qu'il y en a qui pensent comme moi.
Alors on a concocté quelques petits pot-pourris. Alors j'utilise un mot français. Je sais pas s'il faut dire pot-pourris, medley, best-of, pot-pourris. On est d'accord là-dessus ?
Mais bien sûr.
Bon, on va donc écouter.
Aujourd'hui, je suis. Alors puisque vous évoquez le français. Je suis en pétard contre tous ces abrutis qui parlent de cluster toute la journée, alors qu'on a un mot qui s'appelle foyer, et que c'est pas plus mal, et que je vois pas pourquoi ils nous bassinent avec leur cluster à la noix de coco, là, voilà.
Donc, on va écouter un premier pot-pourri, qui, j'en suis sûr, va rappeler énormément de souvenirs à quelques-uns de nos auditeurs, et pas seulement à quelques-uns d'ailleurs. Voici donc le premier bâti autour de quelques prénoms féminins.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Un coup de bec d'oiseau sur une cerise. C'est ce que cache Anna sous sa chemise. Sous laquelle à présent sans crier gare. En toute bonne foi, mon cœur s'égare.
Allô, Olga, ma petite bonne femme au Radada, m'était revenue du Nebraska. Youpi!
Ils disent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. La petite noire du garde-chasse, c'est un vrai piège à bécasse. À l'unisson, les paroissiens disent rien que ça qui lui fait du bien.
Moi j'attends Adèle pour la bagatelle. Je l'attends malgré la pluie. Car je me souviens qu'elle m'a dit je change à République. C'est pas bien pratique. Je tâcherai d'être là-haut plus tard, vers 7h moins le quart. Si vous voyez Estelle, dites-lui que je me suis trompé. Que je ferai tout pour elle, toujours le dos courbé. Rien qui ne lui déplaise. Mais que le dimanche matin, si c'est debout qu'on baise, je prendrai les patins. Ce lieu de délice n'a pas de notice, mais même un novice en aurait la clé. Il y a sous sa pelisse le climat de Nice, entre deux éclisses tendrement musclées. Moi mon seul complice, c'est celui d'Alice, c'est de la réglisse du petit sucrin. La frêle couture qui pourtant l'obture me lie l'aventure au creux de la main. Blanche, oh, ma blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Blanche était un volcan, c'était plus qu'une flamme, un brasier que nul homme n'avait pu allumer. Moi j'ignorais ses dons, je ne sais rien des femmes. Et je n'ai su qu'après, que j'étais le premier.
Blanche, Olga, Adèle, Estelle, Alice, Lily, Anna, il a bien fallu choisir, il y en a tant, Pierre Perret. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces femmes?
Ben, c'est des femmes comme les femmes dans la vie que vous croisez tous les jours, il n'y en a aucune de pareille, et elles sont toutes imprévisibles, et c'est ça qui est attrayant avant tout, je trouve, parce que, heureusement que ma femme n'est pas exagérément jalouse. Parce que sinon, avec tous ces défilés, ça pourrait l'inquiéter.
Oui, vous êtes un chanteur à femmes, Pierre Perret.
Je crois pas, mais c'est marrant parce que depuis des années, dans tout le courrier, dans toutes les manifestations de gens qui m'écrivent, qui me disent « je t'aime », mais il y a quand même un gros, gros pourcentage de femmes, c'est vrai.
J'ai lu que vous mettiez la dernière main un livre sur votre grand-mère, c'est vrai?
Oui. Et comment vous savez ça?
Ah ben je lis la presse, hein, vous savez, je m'informe.
Oui, je viens à peine de finir le bouquin, j'ai fini la relecture il y a quelques jours.
Qu'avait-elle de si extraordinaire, votre grand-mère?
Oh ben, vous savez, elle est née autour des années 1880. Elle a été trouvée sur une poubelle. Alors, je vous laisse imaginer toute la suite. Parce qu'à cette époque-là, eh ben, c'était pas du nougat d'être un enfant abandonné. Ça, aujourd'hui, c'est pas marrant de l'être, certes, mais vous êtes pris en main relativement assez vite. On s'occupe de vous. À l'époque, on s'occupait de rien du tout. Et comme moi, je l'ai bien connu quand même pendant toute ma jeunesse, je suis allé pêcher des tas de renseignements que j'avais pas, de ce que je ne savais pas sur elle, etc. J'ai fait mon enquête. Et ben voilà, j'ai pondu un bouquin.
Et la sortie est prévue pour quand?
Je ne sais pas. Quand j'écris des chansons, je ne sais pas quand je les enregistrerai. Et quand j'écris un bouquin, c'est pareil. Mais bon.
Mais l'important, c'est d'écrire.
Dans quelques mois, l'important pour moi, c'est d'écrire, de faire pisser le stylo ouais. Sans arrêt.
Vous avez un besoin compulsif comme ça d'écrire? Vous êtes un graphomane, Pierre Perret?
Oui. Ah oui, mais c'est un plaisir sensuel, en plus de tenir mon stylo. J'ai jamais touché une machine à écrire, un ordinateur, etc. Ça, pour écrire, ça ne m'intéresse pas. Le plaisir de l'écriture avec une plume, c'est quelque chose de pas racontable. Voilà, si on le connaît pas, on peut pas convaincre les gens de se mettre à écrire, par exemple.
Parce que quand on dit une plume, c'est une vraie plume, hein. C'est pas une métaphore. C'est la plume qu'on voit d'ailleurs dans le clip des Confinis.
Ah oui, non, mais celle-là, c'est une plume d'opérette, c'est une plume... moi, d'ailleurs, j'ai connu Léoto, chez lui, à Fontenay-aux-Roses, qui, même la dédicace qu'il a mise sur mon bouquin, a été écrite à la plume d'oie. Lui écrivait vraiment avec une plume. C'est le dernier, et le seul, d'ailleurs, que j'ai connu écrivant avec une plume.
Alors, Léoto, c'est effectivement l'un de ceux qui vous ont le plus marqué,
l'un de ceux qui vous ont donné envie d'écrire,
rencontre dans les années 50. C'est en tournant, la rencontre avec Léoto?
Oui, j'avoue que tous les conseils de lecture et les auteurs dont il m'a parlé à l'époque... Ce sont des gens qui m'ont marqué à vie, parce que de Chamfort à Stendhal, si vous voulez, je vais pas vous faire le panégyrique de tout ce dont il parlait avec tant d'intelligence et de sensibilité, mais moi, ça m'a fortement marqué. Mon chemin littéraire, entre guillemets, a été bien pavé de tout ce que j'ai récolté avec lui, chez lui.
Et votre chemin littéraire, comme vous dites, il y a à l'intérieur Léoto, il y a Colette, il y a Rabelais,
oui.
Il y a Marcel Aimé.
Surtout Rabelais.
Pourquoi oui. Rabelais? Ça étonnera personne. Il y a un petit côté rablaisien dans l'écriture de Pierre Perret, forcément.
Les gens qui ont lu Pantagruel et toute l'œuvre de Rabelais.
Voilà. La bonne chère, le goût des mots, le goût des autres, le goût de la fête.
Je connais peu de gens qui ont eu le goût de la couleur des mots comme lui. Il a été l'instigateur de... Tous les gens qui ont suivi se sont référés à Rabelais. Il y a pas... C'est certain, tout le monde. Et je crois que De Gaulle était un grand admirateur de la littérature de Rabelais aussi.
Mais tous les écrivains là qu'on vient de citer, vous les avez lus ou vous continuez à les lire, voire à les relire en ce moment?
Et je continue de les lire, oui. Marcel Aimé,
toujours avec le même plaisir.
Oui, parce que c'était un auteur curieux, par exemple, lui. Mais il y a des tas d'autres. Je relis beaucoup les poètes. de Lorca à Rimbaud, si vous voulez. De toute façon, on peut toujours se replonger dans les poésies. On retrouve toujours des richesses qu'on a relues 10 fois. Et on trouve encore des trésors à la 11e lecture.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au lamparo. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie.
Mon petit loup, une des plus belles chansons de notre invité Pierre Perret qui est aujourd'hui avec nous dans VMDN. On a entendu hein, d'ailleurs que vous citiez dans cette chanson Colette, Léoto, Rabelais, Marcel Aimé qu'on évoquait à l'instant. C'est une chanson un petit peu à part, moi je trouve, dans votre panthéon musical. Comment est-ce que vous pouvez déjà nous raconter l'histoire de cette chanson? Comment est-ce qu'elle vous est venue?
De mon petit loup.
Oui.
Bah écoutez, il y a une origine qui est très très lointaine et qui a été le catalyseur dans mon subconscient de ce début d'écriture. J'ai été très maltraité au départ. Vous avez entendu, moi j'attends Adèle tout à l'heure, un petit bout. Quand j'ai enregistré Adèle, j'étais chez Barclay. Barclay, au bout de 3 ou 4 ans que ça n'avait pas décollé chez lui, m'a fait venir un jour, m'a dit, il a écouté d'ailleurs, Le Torboyau que je venais d'écrire, et il m'a dit, écoute, il faut que tu arrêtes, parce que ça marchera jamais. Tu as pas ce qu'il faut, et il vaut mieux que tu arrêtes. Et mon meilleur ami à l'époque, dans ce métier-là, c'était Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe numéro 1.
La radio, oui.
Et qui a été, dont on vient de fêter, entre guillemets, de ponctuer les 50 ans de sa mort, là, la semaine dernière. J'ai mis sur les réseaux un texte qui me tenait à cœur. Et Lucien a passé un coup de fil, et c'est lui qui m'a dit, t'en fais pas, Eddie, il est un peu con, il comprend pas tes chansons, il est pas méchant, mais il comprend rien à ce que tu écris. Et il a passé un coup de téléphone, et il m'a rattrapé comme ça, j'étais en train de me noyer, il m'a sorti de l'eau, il a appelé Monsieur Cabas chez Vogue, et dans les 2 ans qui ont suivi, j'ai enregistré Tonton Cristobal, Cuisse de mouche, Les colonies de vacances. Enfin, c'était
vos plus grands succès populaires qui ont lancé votre carrière.
Des millions, des millions, des millions de disques. C'était une hémorragie. Et à ce moment-là, j'ai croisé un jour Barclay, qui avait eu la jaunisse entre-temps.
Il a été puni par...
Et cette chanson, je l'ai écrite un peu pour moi et pour tous ceux qui croient que c'est fini. Parce qu'il y a toujours un moyen d'en sortir, si vous voulez.
Vous avez jamais eu envie d'arrêter. Là, quand Barclay vous a dit « c'est pas pour toi, faut que tu changes de métier », il était hors de question pour vous, ne serait-ce qu'une demi-seconde, que vous fassiez autre chose.
Eh bien, figurez-vous que moi, j'avais décidé d'arrêter. il m'avait découragé complètement. C'est Lucien qui, lui, m'a repris par les cheveux, qui m'a sorti parce que il m'a dit, mais non, tu peux pas arrêter. C'est pas ta faute à toi. Toi, tu as du talent et tu vas faire une carrière, il m'a dit. C'est lui qui m'a dit ça. Il est le seul à m'avoir dit ça. Et je l'en remercie avec 50 ans de retard, mais je l'en remercie un million de fois, voilà.
Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son courroux, courroux, coucou. Des temples et des mecs, ou des femmes et des mecs, l'honneur est à genoux.
Quand la femme est triagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité.
Nous partîmes sur un ratio, une poubelle qui prenait l'eau. Le passeur m'a dit, l'ami, file-moi tes économies. De partout venaient des Pékins, les femmes, les gosses, les vieillards.
Dites, si tu es kurde, il faut partir.
Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot.
Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs.
Aux yeux tant pitié, les petits enfants tirent ton coup curé avec leur maman. Ça te soulagera, t'iras te confesser, ça t'empêchera pas de recommencer. Les aimants mignons, le derme laiteux, à tous ces petits blonds qui avaient les yeux bleus, tu exhibais Joseph et ses bas-reliefs. Grâce à Dieu merci, les faits sont prescrits. Laissez venir à moi.
Et quand Pierre Perret, qui est avec nous, chante l'intégrisme, l'extrême droite, le racisme, la pédophilie, la guerre, les migrants, des chansons d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Pierre Perret, il y en a certaines qui datent de plusieurs dizaines d'années. Celles elles sont toujours sont terriblement d'actualité.
Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Et mettre le doigt là où ça fait mal, ça fait toujours mal, encore au même endroit. Et c'est ça qui... Eh ben, je m'arrêterai jamais de... Tant qu'il y aura de la plume, de l'encre au bout de ma plume, je m'arrêterai jamais.
La chanson est une arme, Pierre Perret?
Ah oui, pour moi, oui. Ah oui, il y a quand même... une partie de ces chansons-là qui sont apprises dans les écoles depuis longtemps. Et j'ai rencontré des enfants qui m'ont dit, tu sais, moi, j'ai appris Lily à l'école. Hein, et moi, je les aime, tous mes copains qui sont pas comme moi. Et ben, juste pour une phrase comme ça, ça valait la peine.
Vous avez toujours eu le cœur à gauche, Pierre Perret?
Si on appelle une sensibilité de justicier, entre guillemets, c'est toujours la gauche qui a pris la défense des faibles, des opprimés, etc., etc. Mais je pense pas qu'il faille être sectaire à ce point-là. Il y a des tas de gens qui aiment la justice, même s'ils sont pas communistes, socialistes, etc. Bon. Mais enfin, ma sensibilité, c'est celle-là. C'est...
La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, elle vous convient? Est-ce qu'on pourrait y ajouter dignité?
Voilà. C'est la seule chose que j'ajoute au bout. C'est ce vocable-là qui m'est cher encore plus que tous les autres. Voilà. Bon. Parce que, si on n'a pas celui-là, on peut pas avoir les autres.
Vous vous êtes engagé, Pierre Perret, plus récemment aux côtés des Gilets jaunes. C'est au nom de la dignité, justement?
Oui, pareil, parce que toute mon enfance dans le café de mes parents, qui était situé pas très loin d'une usine, il y avait que des gens comme ça, que des Gilets jaunes. Il y avait plus de 1000 ouvriers et la fin de mois s'arrêtait à peu près le 12 ou le 13 du mois. Et après, ben, ils mangeaient des pâtes. Et ils partaient jamais en vacances. Et bien sûr, j'ai connu très tôt tout ça. C'est pour ça que j'ai eu les yeux ouverts très tôt sur la vie et celle qui est pas facile surtout. Et moi, j'étais un garçon privilégié, je mangeais à ma faim. Mes parents n'ont jamais été riches, mais j'ai pas souffert de cette façon-là. Mais j'ai souffert du spectacle que ces gens-là, dans le malheur, m'offraient au quotidien. Et je l'ai jamais digéré, je l'ai jamais admis, je l'ai jamais compris. Et j'ai tout le temps jugé utile de me battre. Voilà.
Et lorsqu'on se bat en utilisant la violence, en dégradant des magasins, des restaurants,
alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Même s'il y a 1% des gilets jaunes qui a pu faire ça, des cons, des salauds, des abrutis qui ont rien compris, il y en a partout.
Ça n'invalide pas leur
même
combat.
Même là, mais ça annihile pas toutes leurs intentions et les bons, c'est pas pour ça qu'il faut ouvrir le crâne des bons. Vous savez, tous les black blocs et les casseurs qui viennent de tous les pays d'ailleurs pour faire casser les vitrines de façon organisée, etc. C'est pas les gilets jaunes ça. Et pourquoi les laisse-t-on faire vraiment? Eh ben, je vous pose la question.
Votre album le plus récent, Pierre Perret, en 2018, s'intitulait « Humour, liberté ».
Oui.
Un hommage au dessinateur de Charlie Hebdo. Le procès est en cours en ce moment, oui. Le procès de l'ensemble des attentats en Ile-de-France en 2015. L'humour et la liberté, ce sont deux valeurs menacées dans le monde d'aujourd'hui?
Ah oui, considérablement, parce que l'obscurantisme a beaucoup plus de place aujourd'hui que l'humour, malheureusement. Et c'est la chose qui me fait le plus mal de voir que la morale, une certaine morale, empêche les enfants d'un certain recul, d'une certaine dérision, d'un certain humour. Parce que il y a une chasse à la liberté de pensée et de mots aujourd'hui, qui est de plus en plus grave, de plus en plus pernicieuse. Et c'est celle-là qu'il faut combattre d'abord. Parce que la liberté d'expression, à mon avis, il n'y a pas plus important que ça, surtout dans le siècle qu'on vit maintenant, où pour le moindre truc, il y a un interdit, tout de suite, on le voit. Mais ça devient une espèce de dictature. On a des dictats, maintenant, au fil du temps, et on le voit, d'ailleurs, avec cette crise abominable qu'on est en train de traverser, vous avez des recommandations, mais c'est surtout en forme de dictat. On vous dit, voilà, tu vas faire ça, et tu bouges pas de là. Et ça, c'est très grave, je trouve.
C'est étonnant parce qu'il y a d'autres qui nous expliquent au contraire qu'on vit une crise de l'autorité de l'État, que la parole publique est complètement dévaluée et que
alors,
finalement, c'est le
règne
de l'individualisme.
De ce côté-là, oui, il y a un laxisme terrible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des Black Blocs, par exemple. Pourquoi on les attrape jamais? J'ai jamais entendu parler d'un Black Bloc en prison. C'est marrant. Des gilets jaunes avec les yeux crevés, j'en ai vu 10, et qui ont été malmenés. Mais tous les mecs en noir, là, qui foutent la merde de façon très organisée, quid de la punition, de l'interdiction, moi j'ai pas entendu parler, peut-être si vous, faudra m'expliquer.
Des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tant Christ, comme elle est revenue. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux.
Et c'est vrai que les enfants, depuis des générations, chantent vos mots, chantent vos chansons. Pierre Perret, de Tonton Cristobal aux colonies de vacances, en passant évidemment par La Cage aux oiseaux, qui fait d'ailleurs partie des programmes scolaires, hein, vous le rappeliez vous-même tout à l'heure. Il y a plusieurs dizaines d'écoles, de collèges qui portent votre nom en France.
Oh, il y en a plus d'une trente, on va vers 32 ou 33e que je vais inaugurer bientôt, je crois. Et puis, il y a une cinquantaine d'établissements qui portent mon nom, des médiathèques, des bibliothèques, des rues parfois, des places.
C'est une vraie fierté, tout ça, c'est important, cette reconnaissance publique, Pierre Perret.
Ça m'amuse beaucoup. La vraie fierté que j'ai, c'est à propos des lieux d'enseignement. Ça, c'est la pérennité éternelle, si vous voulez. C'est ça qui fait le plus chaud au cœur. Voilà, parce que mon ego, bon, aujourd'hui, il se passera plus grand-chose de plus important que ça. C'est important d'avoir une rue, mais c'est encore plus important d'avoir une école, je trouve.
Quel genre d'écolier étiez-vous, Pierre Perret ?
Alors, j'étais terrifié par le calcul. Je ne comprenais absolument pas. Quand un Robico perdait pendant que le train passait à 45 à l'heure, et on me disait ça me terrifiait. Je pleurais à l'avance, alors que je jubilais d'avance quand j'avais une dictée à faire. Et si je faisais une demi-faute, j'étais malade pendant une semaine.
Voilà. Vous étiez déjà, quand vous étiez gamin, plongé dans les dictionnaires ?
Ah, ça m'intéressait, oui, tout le temps. Je lisais les dictionnaires comme on lit un roman. Et j'étais très heureux, et d'ailleurs mes devoirs parfois étaient cités un exemple dans la classe, c'était les rédactions, voilà. Alors j'avais déjà
de
l'imagination,
faut croire,
voilà. Et ma vie après, mes rédactions se sont transformées en chansons, mais finalement j'ai fait des rédactions toute ma vie, c'est vrai, vous avez raison.
Avec des dictionnaires, vous utilisez le dictionnaire justement quand vous écrivez ?
Oui.
Y compris le vôtre, peut-être, parce que vous avez publié un dictionnaire de l'argot.
Oui.
En 82, il faudrait peut-être un peu le réactualiser, parce qu'il a un petit peu évolué
Mais je suis plus fier du dictionnaire du parler des métiers, par exemple, qui m'a pris 30 ans de boulot. Et alors ça, c'est prêt à être augmenté dans une édition hypothétique future, mais j'ai beaucoup déjà, j'ai reçu au moins 2 ou 3 000 entrées différentes en nouveau parler de métier. Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce parler populaire ?
Ben parce que il n'y a rien de plus vivant et transformatoire que les mots, les phrases, ça évolue sans arrêt. Et donc, on n'a fait que consigner ça à longueur de vie. Moi, quand je lis relis le Littré, par exemple, eh ben, je me plonge souvent entre le Littré et le Larousse d'aujourd'hui, ou le Robert, il y a des milliers de mots qui sont plus là, qui ont disparu, etc. Et il faut prendre tout ça en compte et il n'y a pas de mots inutiles. Les mots, le mot qui fait florès, qui reste dans le dictionnaire, qui a fait ses preuves dans la rue, eh ben, il peut rentrer dans le dictionnaire. Un mot d'argot, par exemple, puisque vous parliez d'argot, il y a 40 ans, il y avait boulot. Boulot, c'était de l'argot. Oui. Vous allez au boulot tous les matins. C'était de l'argot. Aujourd'hui, il y a longtemps que c'est dans les dictionnaires. Et voilà, c'est ça, la transformation des dictionnaires, la richesse des dictionnaires.
Mais qu'est-ce qui vous plaît dans un mot, Pierre Perret ? C'est son sens, c'est sa sonorité, c'est quoi ?
Alors, c'est la précision de son sens, surtout, mais c'est aussi sa musique. Parce que la musique d'un mot, eh ben, c'est ça qui séduit l'inconscient des gens qui vont s'en servir. Et si un mot fait florès et traverse le temps, c'est pas ce qui plaît à l'oreille, comme une phrase, comme un vers de Verlaine ou de Queneau, si vous aimez le surréalisme. Eh bien, si ça reste, eh bien, c'est qu'il y a suffisamment de richesse pour traverser le temps.
Quel est votre mot préféré, Pierre Perret ?
Vous savez, à part la vie. Je vois pas.
Et quel est votre juron préféré ? Parce que vous avez aussi écrit un dictionnaire des jurons, gros mots et autres noms d'oiseaux.
Oh,
Oh, allez-y, allez-y, on est entre nous, là, vous savez. Il y a quelques millions d'auditeurs, c'est tout, allez-y.
Mais je, simplement, quand... S'il y a un truc qui m'échappe, je dis merdouille, le temps se brouille. Voilà, mais c'est tout.
Je sais pas ce que c'est. Alors, vous faites une transition formidable parce que vous publiez un ouvrage, hein, Pierre Perret, Aphorism and Blues,
oui.
Aux éditions Adèle. Adèle,
oui.
Évidemment, c'est pas complètement fortuit, hein, on est d'accord? C'est un recueil, donc de 60 ans, de sentences et de maximes. L'aphorisme, c'est un art.
Eh ben, j'ai mis des années à les faire, hein. J'ai mis des années à les écrire. Et...
L'aphorisme dit ce qu'il veut. Écrivez-vous, en épigraphe, vous avez choisi cette phrase. Les paroles ont une portée que le fusil n'atteint jamais.
J'en suis bien persuadé, bien sûr. Et si longue soit la nuit, le jour finit toujours par arriver.
Ce qui résonne évidemment avec l'actualité, avec les actualités. Vous voyez, l'optimiste, Pierre Perret, vous êtes un indécrottable optimiste finalement. Vous vous moquez beaucoup de la bêtise, de la connerie humaine, et en même temps vous croyez toujours en l'homme.
Ah ben bien sûr, sinon je tiendrais plus un stylo, je pourrais plus prendre un stylo si je croyais pas en l'homme. Mais c'est le constat de toutes les tares humaines. Si vous voulez, Balzac a pas fait autre chose toute sa vie. Moi, j'ai essayé de mettre gentiment en chanson ce genre de choses, gentiment ou pas d'ailleurs. Mais je me suis servi des chansons. Et ça, c'est un véhicule qui m'a toujours... un moyen d'expression qui m'a séduit toujours. Parce que à la maison, quand j'étais gamin, mes parents chantaient beaucoup, papa chantait tout le temps. On chantait à la maison. Mais je n'avais jamais pensé que je traverserais ma vie en ne faisant que des, entre autres, que des chansons et des livres, enfin, autour des mots, quoi, voilà.
Et donc, ce livre sur les aphorismes, c'est plus dur à écrire qu'une chanson, un aphorisme? Pourquoi? Parce que c'est plus bref, ça claque?
Et oui, vous pouvez garder que les mots essentiels. Un des derniers que j'avais trouvé qui m'amusait le plus, puisque vous dites que j'aime bien me moquer, puisqu'on parle beaucoup de vaccins aujourd'hui, le seul vaccin connu aujourd'hui contre la connerie, c'est l'humour. Le con, lui, n'a jamais trouvé la pharmacie.
Voilà. Alors, j'en ai noté quelques-uns, hein, des aphorismes qui parsèment ce livre sur l'argent, par exemple. Hein. Loin des yeux, loin du cœur, mais près de ses sous et de ma sœur. Ventre affamé n'a point d'oseille. Ben, ça, c'est très joli. Sur l'homme.
Les jeux de mots.
Sur l'homme, on parlait d'humanisme à l'instant. Il est fourbe comme une hyène et plus menteur qu'une épitaphe. Alors celui-là, il fallait quand même se lever de bonne heure ou en pleine nuit peut-être pour le trouver, je ne sais pas. Sur les femmes décident souvent, mais la mienne tout le temps. C'est vrai ?
No comment.
Il y a toute une série aussi
sur... Si jamais elle écoute l'émission,
vous êtes mort.
Oui, oui.
Toute une série aussi sur les saints. Hein, à Sainte-Honorine, réchauffe la gamine. À la Saint-Léon, fais-lui un lardon en argot, évidemment,
oui,
c'est le gamin. Ou encore, les tuyaux de la machine à laver sont vite encrassés quand on lave son linge sale en famille.
Ah, c'est pas faux.
C'est pas faux. Il faut effectivement y réfléchir. Ces aphorismes-là, vous les associez au jazz, aphorism and blues, la note bleue.
Oui,
pour quelle raison,
voilà.
Pierre Perret?
Bah parce que j'ai toujours adoré le jazz et en même temps. Un aphorisme, c'est de la vérité, mais avec du blues aussi, parce que ça procurait de la joie et aussi du blues.
Alors, il y a deux aphorismes qui, dans le livre, ne sont pas de vous. Il y en a un de La Rochefoucauld.
Oui.
Les vertus se perdent dans l'intérêt
comme les fleuves dans la mer.
La Rochefoucauld, c'est votre maître en aphorisme?
Oui, Champfort et La Rochefoucauld, oui, surtout.
Et puis, l'autre, qui n'est pas de vous, c'est de Jean Carmé.
Oui.
Mon arme préférée,
c'est le tire-bouchon.
C'est le tire-bouchon. voilà, ça vous convient parfaitement. Ça,
oui,
vous aussi, vous utilisez beaucoup le tire-bouchon?
Oui, toujours, bien sûr.
Avec modération, quand même.
Juste un mot de Carmé, qui était un type adorable et qui on se voyait assez souvent chez notre copain commun, Lino Ventura, chez qui on allait faire des bons petits gueuletons. Et là, on se servait du tire-bouchon, justement.
Il y a donc cette tournée qui s'appelle Les Adieux Provisoires.
Oui.
Pierre Perret, on attend après un nouvel album, forcément. Une nouvelle tournée après, puisqu'ils sont provisoires, ces
adieux. Je suis en train d'y travailler.
Au nouvel album?
Oui.
Vous êtes dessus?
Oui.
Il est prévu pour quand?
Je viens d'en terminer avec ma grand-mère, Anna. Et alors, je fais aucune prévision pour les chansons, je ne sais pas. Parce que l'écriture, si j'ai fondé ma maison de disques, il y a déjà 50 ans, c'est pour échapper à l'emprise d'une maison qui me dit « Vous devez nous fournir 12 chansons dans 15 mois ou dans 6 mois. » ou jamais.
Donc vous faites ce que vous voulez. Humour, liberté, on y revient toujours.
Bout, voilà, complètement libre.
Et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, Pierre Perret, dans l'actualité? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire les chansons là qu'on va pouvoir découvrir dans X temps, finalement, dans cet album?
Dès que je sors dans la rue, j'ouvre tout grand les yeux et j'ai plein de chansons devant moi.
Les yeux et les oreilles, finalement.
Et les oreilles.
Les yeux, les oreilles, la bouche un petit peu pour chanter quand même aussi.
Oui, après, ça vient après. Ça c'est le service après-vente, si vous voulez. Mais la création, c'est les yeux grands ouverts et les oreilles encore plus. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre Perret, d'être passé par les studios de RFI.
Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes menacé de me revoir.
Eh bien, rendez-vous est pris. Aphorismes and Blues aux éditions Adèle. Vous serez donc en concert les 10 et 11 octobre, je le rappelle, salle Playel à Paris avant une tournée dans toute la France. On se quitte avec encore quelques refrains et on se retrouve demain, bien sûr, avec la romancière Faiza Ghen pour son livre La Discrétion qui vient de sortir chez Plon et vous m'en direz des nouvelles.
On l'appelle fils de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la faute, bien sûr, à ses tout petits poumons.
Elle allait aux prises uniques acheter ses panzanis. Moi j'attendais que la vendeuse me donne mon riz précuit. Elle me dit, Dieu me chatouille, vous êtes le beau Pierrot. Et paroles de cuisse de mouche, c'est vous que j'ai dans la peau. C'est pour ça qu'on l'aime, dans notre HLM. Chez le beau Riri ou dans le bistrot de la mère Tadji. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estogomme.
Au Tornoyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomage, nous, qui demande pardon. Les boyaux qui tricotent des napperons. Les rotules de grand-mère, c'est du beurre. À côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molette, un conseil, tu la laisses au bestiaire. Au Tornoyau, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac.
Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. Le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gué. Des boulangers jusqu'au ramoneur, au gué. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur, au gué. Celui qui m'y donne la main de ma sœur, au gué. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur.